La première.
15h, 16h le samedi.
Les éclaireurs.
Fabienne Vandemersch.
Bonjour, bienvenue, voici donc les éclaireurs et aujourd'hui nous allons parler des parchemins, des globules blancs et des abeilles sauvages et je vous présente tout de suite nos invités. Yasmina Serouk, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en médecine, vous faites une formation actuellement, une formation clinique pour devenir hématologue. Vous êtes l'auteur d'une thèse à l'ULB dans le domaine de l'immunologie. Vous avez étudié une catégorie de globules blancs qui ont la faculté de tuer des cellules anormales, cancéreuses, affectées par des virus. On en parlera évidemment tout à l'heure. Mais c'est vrai que, voilà, on le note, vous menez ce qu'on appelle un parcours mixte, hein. Recherche, clinique, recherche, ou plutôt clinique, recherche, clinique. Hein. Et c'est une décision mûrement réfléchie de votre part ou bien ce sont les circonstances qui vous ont porté sur cette vague?
J'ai réfléchi à ça dans le chemin qui me menait jusqu'ici. Je pense que c'est en partie les circonstances et puis en partie quelque chose de réfléchi. J'ai toujours voulu avoir un parcours académique. Donc la recherche s'imposait pour des raisons simplement de parcours et de curriculum, je dirais. Et puis je pense que quand on fait des choses, parfois on comprend après pourquoi on les a faites. Et ben, je suis ravie d'avoir eu cette chance parce que je me rends compte au quotidien que ma formation est tout à fait complète et se complète très bien et m'apporte différentes perspectives qui m'aident au quotidien à mieux prendre en charge mes patients.
Et on en parlera évidemment en détail dans le courant de cette émission. Avec nous également Pierre Asmon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences agronomiques, professeur à l'Université de Mons, fondateur du laboratoire de zoologie que vous avez en réalité dès l'origine orienté vers l'étude des bourdons et des abeilles sauvages, c'est encore le cas aujourd'hui.
Oui, c'est bien ça.
C'est votre passion, les bourdons. Vous aviez fait votre thèse, je pense, de doctorat, il y a quelques années, sur le sujet.
C'est devenu une passion. Et à l'origine, je pense que j'ai toujours eu une passion immodérée pour les animaux en général. Et puis, c'est lorsque j'ai rencontré mon professeur de zoologie, le professeur Leclerc à Gembloux, lorsque j'ai fait mes études d'ingénieur agronome, que je me suis dirigé vers les bourdons et il m'a donné ce virus-là.
Voilà, et c'est un intérêt qui ne vous a jamais quitté. Vous avez développé des méthodes de surveillance des abeilles sauvages et des bourdons. C'est à l'Université de Mons d'ailleurs que se sont rassemblés les millions de données réunies par une vingtaine de laboratoires européens qui travaillent sur le sujet. On parlera avec vous de ce que montre l'analyse de ces données. Il y a eu des surprises, hein, je pense, au cours des études.
Oui, tout à fait. On s'attendait, comme tout le monde, à expliquer la régression des abeilles sauvages et des bourdons par les pesticides, du fait des pesticides et des modifications de l'agriculture. Et l'énorme surprise, c'est que toutes nos analyses statistiques ont montré que le facteur principal, c'est la modification du climat.
Mmh. Avant de faire tout ceci et de vous orienter vers la zoologie, les bourdons, les abeilles, vous avez été matelot dans la marine marchande, hein, professeur
Rasmus. Oui, tout à fait. Vous avez été recherché très loin dans mon passé.
Ah oui, mais... C'est un peu ma marque de fabrique. Et quoi ? Et c'était quoi ? C'était pour un service
militaire ? Oh non, c'est toujours la même chose. En fait, je rêvais de me constituer un élevage et un élevage de brebis. Et je vous dis, je suis fasciné par les animaux et par l'élevage depuis toujours. Et j'avais calculé que pour pouvoir vivre de ça, il me fallait au moins 1000 brebis pour commencer. Et je me suis dit, où est-ce que je peux trouver de l'argent rapidement pour pouvoir m'acheter 1000 brebis? Et je me suis rendu compte que le seul métier à l'époque, dans les années 70, qui vous permettait de faire ce genre d'économie, c'était matelot à la marine marchande.
Et voilà, tout s'explique. On y reviendra tout à l'heure. Avec nous aussi, Olivier de Paris. Bonjour, professeur de Paris.
Bonjour.
Vous êtes professeur au département de physique de la faculté des sciences de l'Université de Namur. Vous êtes spécialisé dans les interactions radiation-matière, c'est-à-dire...
Oui, c'est ça. Dans les interactions rayonnement-matière, au sens large, et plus spécifiquement, moi, c'est la lumière, en fait, le rayonnement qui fait l'objet de mes études depuis de nombreuses années.
Voilà. Mmh. Vous menez des recherches dans plusieurs domaines, mais nous parlerons surtout aujourd'hui de celles qui concernent les parchemins, leur conservation, les enjeux de cette conservation. Mais ce qu'il faut dire d'emblée, monsieur de Paris, c'est que vous avez toujours voulu privilégier des recherches interdisciplinaire, c'est-à-dire qui associe la théorie et l'expérience, et c'est encore le cas ici.
Oui, tout à fait. Il faut peut-être signaler que je suis ingénieur de formation. Je pense que c'est une formation qui nous pousse dès les études à l'interdisciplinarité, j'y trouve un énorme contentement. Mmh. Ce qui m'a intéressé juste brièvement, peut-être dans le parchemin, c'est l'aspect matériau. Il s'agit d'un matériau, donc le collagène, donc la peau animale, qui est un matériau hiérarchique, c'est-à-dire qui possède une structure. Et en fonction de cette structure, en fait, on voit des propriétés optiques intéressantes. Et c'est en fait là le fil conducteur par lequel je suis rentré, disons, dans cette recherche.
Pour ce qui est des parchemins, c'est vrai qu'on est en lien à la fois avec l'historique, hein, puisque c'est le support de l'écrit majeur de l'histoire de l'humanité, mais c'est aussi, comme vous le dites, le matériau omniprésent dans le monde du vivant. Le parchemin, c'est 85% en fait de collagène.
Oui, oui, tout à fait. Donc, je trouve ça fascinant en fait que un matériau biologique omniprésent, hein, au même titre par exemple que la cellulose dans le monde du vivant, soit en fait le matériau sur lequel principalement l'humanité a écrit son histoire. Mm-hmm. Alors je trouve ça absolument fascinant.
Mais je trouve ça fascinant que ça intéresse aussi les physiciens. Donc voilà, oui, c'est fascinant finalement ce lien entre la biologie et la physique, puisque souvent on dissocie très fort ces deux matières. Mm-hmm. Je suis ravie que le support biologique puisse aussi servir à des recherches fondamentales en physique.
Alors justement, ici, dans cette recherche concernant les parchemins, elle réunit le physicien que vous êtes, professeur de Paris, mais aussi justement une biologiste, un philosophe également, un chimiste notamment, puisqu'il faut analyser donc les protéines pour identifier l'espèce animale qui a servi à produire le parchemin. On rejoint aussi un petit peu votre domaine, hein, monsieur Rasmon.
Oui, 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 tout à fait. Mais si vous me permettez de rebondir un petit peu sur cette interaction entre la physique et la biologie. Moi, j'ai une formation d'ingénieur agronome et le côté pluridisciplinaire de la formation d'ingénieur est quelque chose qui est très enrichissant. Et une des choses qui me frappe énormément, c'est que on peut très difficilement faire de la biologie sans avoir des connaissances de physique de base. Alors, par exemple, la chose vraiment importante, c'est la thermodynamique. La thermodynamique, c'est finalement cette section de la physique qui nous permet de savoir ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible dans les interactions biologiques. Et je fais beaucoup d'écologie, évidemment, dans la discipline que j'ai. Et en fait, je bute chaque fois sur les problèmes de thermodynamique. Et je me rends compte que les étudiants ont du mal à se rendre compte que pour pouvoir faire de la biologie, il faut connaître la chimie. Ça, c'est trivial, mais il faut aussi connaître la physique. Il faut connaître la physique et les organismes ont aussi des contraintes mécaniques. Un squelette, c'est quelque chose qui mécaniquement doit tenir le coup, doit répondre à certaines contraintes physiques et il faut les comprendre.
Mm-hmm. Alors que dit la docteure en médecine qui est là, Yasmine Asseroug?
Ben oui, de fait, bon, l'environnement physique moi j'ai étudié les cellules, je les ai triées à partir de sang humain, de donneurs volontaires qui étaient d'accord donc de donner leur sang pour mes recherches. Je les ai isolés, ces globules blancs, donc ce sont des cellules tout simplement, et je les ai mises en culture. Et c'est certain que la première chose que je devais vérifier, c'est qu'elles étaient dans un bon environnement physico-chimique, c'est-à-dire dans les bonnes conditions d'oxygène, dans le bon milieu de culture. Si le milieu de culture avait des propriétés altérées, que ce soit au niveau chimique ou au niveau physique, mes cellules vivaient moins bien. Donc effectivement, elles sont très très dépendantes de leur environnement physique, ça c'est certain.
Est-ce que tous les trois, vous travaillez dans des laboratoires avec du matériel dont on reparlera tout à l'heure, hein, parce qu'évidemment, le destin d'ailleurs du matériel que vous utilisez pour vos recherches, les destins sont différents, hein, le sang humain, les parchemins, les abeilles et les bourdons, voilà, c'est du matériel de recherche, il faut dire les choses comme cela.
Mais finalement, tous les trois, on travaille sur du matériel biologique à la base. Exactement. Donc, c'est tout du matériel animal, des protéines animales, des cellules.
Il y a du matériel commun. Je pense que dans tous les labos, maintenant, par exemple, on utilise des microscopes qui peuvent être différents par leur modalité, mais on utilise pratiquement partout des microscopes. Puis on a les instruments d'analyse chimique. J'ai envie de dire, tous mes étudiants qui passent par mon labo font du chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse.
C'est oula,
oui, je sais. Expliquez-le. Je fais exprès d'utiliser le mot compliqué pour se rendre compte.
Pour que je puisse vous demander de nous expliquer en détail.
En fait, bon, en gros, on est obligé maintenant. On ne peut plus faire de biologie. Même étudier le comportement des bourdons, on ne peut plus faire ça sans, à un moment ou à un autre, avoir besoin d'instrumentation chimique délicate et approfondie pour analyser, par exemple, les phéromones, les parfums qui sont émis lors des parades nuptiales, par exemple. On ne peut pas le faire. Donc, on est obligé d'entrer là-dedans dans des instrumentations compliquées chimiquement, mais qui sont aussi compliquées physiquement. Quand on fait de la génétique, on est obligé d'entrer, de faire du séquençage d'ADN. On ne peut plus faire de la biologie comme on le faisait il y a 20 ans. Maintenant, on doit, à un moment ou à un autre, faire du séquençage d'ADN ou du séquençage de protéines, et ça nous fait rentrer automatiquement dans une grosse instrumentation de chimie, une grosse instrumentation de biochimie et des bonnes connaissances en physique.
D'accord, avec ça, je suppose,
Olivier Devaille. D'ailleurs, ce que je trouve amusant, parce qu'on a cité le gros mot de spectre de masse, si on peut dire comme ça. En fait, si on regarde un peu l'historique, il y avait un review dans Nature, là-dessus, il n'y a pas longtemps, sur l'historique de la spectre de masse. Donc la spectrométrie de masse, c'est-à-dire finalement une balance moléculaire, pour les gens qui nous écoutent, c'est pouvoir mesurer le poids de molécules. C'est au départ une technique vraiment qui vient de la physique et qui est toujours utilisée par les physiciens, mais elle a connu un boom énorme, évidemment, en biochimie, en biologie. Par exemple, les instruments que nous utilisons pour identifier l'origine, l'espèce animale des parchemins, sont utilisés à 99%, par exemple, pour analyser des farines animales, pour savoir est-ce qu'elles contiennent ceci et cela, et Dieu sait si c'est évidemment quelque chose d'extrêmement important dans l'industrie alimentaire et aussi au regard des règles européennes, etc. Donc on voit vraiment qu'on a un appareil qui permet de développer ce qu'on appelle la protéomique, donc l'étude du protéinome, qui, en fait, peut être aussi utilisé par les physiciens dans une espèce de juste retour des choses.
Si je me permets. Yassine Nasser, sur ceci.
Non, c'est vrai, je rends hommage effectivement aux scientifiques fondamentaux, comme nous on appelle, parce que nous, au laboratoire, donc, on est quelques médecins. L'institut où je travaille, où j'ai fait ma recherche, c'est l'Institut d'immunologie médicale. On dépend de la faculté de médecine, mais on a énormément de biologistes donc, qui ont fait des études en sciences et pas en médecine, qui font également des thèses, qui sont également partie prenante de la recherche et avec qui on travaille au sein des mêmes équipes. Mais c'est évident dès le début qu'on n'a pas du tout les mêmes profils et la même façon d'aborder les choses, même si on a le même but. Et donc, souvent, nos collègues nous disent « Encore un médecin ?»« Ah oui, ça, c'est ton côté médecin ?» Parce que nous, c'est vrai que ce qui nous intéresse, c'est que ça marche. Comment ça marche ? On sait, on l'a appris. Au début de nos études, on a énormément de sciences fondamentales. Mais c'est vrai que nous, après, on est au bout de la chaîne. On est très content qu'il y ait des gens qui sachent développer et faire fonctionner les machines. Mais voilà, nous, on s'intéresse à ce qui marche au final. Donc moi, j'ai pas utilisé de spectrométrie de masse ou quoi que ce soit, mais donc j'ai effectivement séquencé de l'ADN, j'ai séquencé de l'ARN. Enfin, en tout cas, je me suis intéressée aux gènes qu'exprimaient mes cellules. Et alors, nous, en immunologie, on a vraiment une technique qui est assez élégante et qu'on utilise beaucoup, c'est-à-dire qu'on a la possibilité, toutes les cellules immunitaires ont des petits drapeaux, elles portent des identifiants, et donc on peut marquer ces identifiants avec des petits marqueurs fluorescents, qu'on peut après étudier sur une machine avec différentes couleurs, donc ça c'est tout à fait physique, mais donc voilà, nous ce qui nous intéresse, ça s'appelle un cytomètre en flux, ça veut dire qu'on peut faire passer toutes nos cellules marquées avec des petits fluorochromes, donc avec différentes petites couleurs, et identifier la couleur et de chacune de ces cellules et donc son identité. Et ça c'est très pratique parce que ça permet d'étudier les cellules sans les tuer et sans les altérer, en fait. On les marque juste, mais on ne change rien à leurs propriétés avant de les étudier.
Cette grosse instrumentation dont vous parliez tout à l'heure, monsieur Rasmont, cette complexité, ça coûte cher. C'est ce qui explique les coûts de certaines recherches et de l'obligation aussi de faire des équipes peut-être internationales, justement, pour un peu mutualiser les coûts énormes que cela représente.
Je voudrais dire que non. En fait, une des choses qui est le plus extraordinaire, c'est la diminution du coût de ces grosses instrumentations. Il faut quand même se dire que dans les années 70, le spectromètre de masse était quelque chose qui coûtait des prix exorbitant. Je ne sais pas, un spectromètre de masse dans la fin des années 70, ça devait coûter quelque chose comme 2 millions d'euros, à peu près. Et c'était 10 000 fois moins sensible que les spectromètres de masse, les chromatographes et spectromètres de masse de maintenant. Et donc, il y a eu un bond en avant en précision et aussi une réduction des coûts prodigieuses. En gros, maintenant, un chromatographe couplé à un spectromètre de masse, ça doit coûter quelque chose comme le prix d'une belle voiture. C'est-à-dire que c'est achetable au niveau d'un laboratoire ou en tout cas d'un département.
Mm-hmm. Ça change d'une université, tout. Vous voulez dire.
Oui, mais non. Dans une université, on en a des chromatographes et des spectromètres de masse. Je suis incapable de vous dire le nombre qu'il y a à l'université de Mons. Certainement une dizaine, mais c'est peut-être bien plus. Mm-hmm. Je n'ai pas fait le compte.
Mm-hmm. Monsieur de Paris.
Oui, c'est vrai qu'en fait, je suis tout à fait d'accord avec cette remarque, dans le sens que maintenant, les appareils sont beaucoup plus accessibles. Seulement, évidemment, ce qui se passe, c'est qu'ils sont fort occupés. Alors, ça me permet de faire une petite parenthèse ici. Quand on fait des études interdisciplinaires et transdisciplinaires, je reviendrai sur ce terme trans tout à l'heure, parce qu'on n'a pas encore parlé des aspects historiques, c'est-à-dire des sciences humaines derrière tout ça. Quand on fait des études qui paraissent exotiques, et ce n'est pas péjoratif, c'est très difficile d'avoir accès, en fait, à ce qu'on appelle des temps-machines, parce que les temps-machines sont occupés pour des projets hyper important, que ce soit en médecine, dans tous les domaines. Et là, c'est là qu'il faut compter sur la curiosité intellectuelle. J'ai envie de dire aussi parfois le courage de collègues qui disent « Bon, d'accord, écoute, on croit en ce que tu fais, on a envie d'essayer. » Et c'est l'environnement que j'ai trouvé à l'université de Namur. J'ai trouvé des gens très motivés qui, quelque part, on arrive à voler un tout petit peu de temps machine pour faire des recherches un peu spéciales.
Alors précisément, nous allons en parler dans quelques instants avec vous trois de vos recherches respectives. Ce sera juste après Week-end.
Les éclaireurs sur la première, le samedi 15h-16h.
Et avec nous donc aujourd'hui dans les éclaireurs, il y a Pierre Asmon, docteur en sciences agronomiques, professeur à l'Université de Mons, fondateur du laboratoire de zoologie et avec qui nous allons parler des bourdons et des abeilles sauvages. Nous avons également avec nous Olivier de Paris, professeur au département de physique à l'Université de Namur, ingénieur civil de formation, docteur en sciences appliquées de l'Université de Mons et nous allons parler avec lui des parchemins et puis Yasmina Serouk. Docteur en médecine, hématologue en formation, auteur d'une thèse à l'ULB il y a quelques années relative à une catégorie de globules blancs. Alors quand il s'est agi, Yasmina Serouk, de traduire le titre, si je puis dire, traduire le titre de votre thèse pour le concours Ma thèse en 180 secondes, dont vous faisiez partie des trois finalistes belges en 2014, vous aviez choisi ceci, un globule blanc programmé pour tuer. Mais le titre officiel était plus compliqué. On voit bien ce que ça veut dire, plus ou moins. Enfin, on va vous demander mais le titre officiel.
Oui, le titre officiel, c'était Régulation transcriptionnelle et épigénétique des fonctions cytotoxiques des lymphocytes TCD4 humains.
Un globule blanc programmé pour tuer. Vous avez donc travaillé sur des globules blancs extraits, vous l'avez dit tout à l'heure, du sang de donneurs volontaires pour voir s'ils produisent ou non de la perforine.
Voilà.
C'est quoi la perforine ?
Donc la perforine, c'est une protéine qu'on connaît bien parce qu'elle est produite par les lymphocytes tueurs. Donc les lymphocytes tueurs, ce sont des globules blancs qu'on connaît bien, qui s'appellent les lymphocytes TCD8. Et ce sont des cellules immunitaires, donc des globules blancs, qui sont programmés pour tuer. C'est leur fonction de base, c'est même la principale, voire la seule fonction qu'on leur connaît. Ça veut dire qu'ils tuent les cellules infectées ou anormales, toutes les cellules qui doivent être éliminées du corps humain, ils sont là pour les tuer. Et pour ce faire, ils utilisent la perforine. On l'appelle perforine parce qu'en fait, cette protéine crée un trou dans la cellule cible, donc la cellule à éliminer. Elle la perfore. Et suite à cette perforation, la cellule va provoquer elle-même sa mort parce que ce trou dans sa membrane, ce trou dans son enveloppe protectrice ne lui permet plus de survivre. Mm-hmm. Donc ça, c'était les TCD8. Après, il y a des autres lymphocytes T qu'on connaît également, mais qui ont tout un tas d'autres fonctions, mais qui normalement ne produisent pas de perforine, donc ne tuent pas les cellules. Mmh.
Et ma thèse est partie d'un constat, mon projet de recherche est parti du constat qu'en fait les TCD4, dans certaines circonstances, produisent également de la perforine et tuent également des cellules. Alors on ne savait pas comment, et c'est ce que j'ai essayé de découvrir.
Quand vous avez présenté votre thèse là, en 180 secondes, vous aviez dit les T4 sont de parfaits éclaireurs. Vous vous souvenez que vous avez dit ça en 2014 hein, c'est prédestiné hein, d'en revenir dans l'émission.
Mais... C'est vrai, j'avais utilisé des métaphores pour un peu décrire les globules blancs pour donner une image. Donc les TCD8, c'était des tireurs d'élite. Ils sont connus pour ça, c'est leur seule fonction. Voilà, comme on imaginait un mercenaire, son programme et sa fonction, c'est d'aller tuer. Par contre, les CD4, ce sont des éclaireurs. Ils préparent le terrain, ils distribuent les rôles. Oui, c'est vraiment ça. Ils préparent le terrain, ils distribuent les rôles des différents acteurs de la réponse immunitaire. Et voilà, un de leurs rôles qu'ils peuvent aussi employé, c'est de tuer les cellules.
Mmh. Si on découvre les gènes impliqués dans l'acquisition de cette capacité de ces globules particuliers, ça pourrait donc impacter le traitement, la prévention des infections virales ou des cancers même ?
Tout à fait.
C'est ça l'idée.
Donc c'est ça l'idée. Je dirais que dans les infections virales, c'est évident. Dans les cancers, c'est vraiment en train d'exploser, je dirais. C'est ce qu'on appelle l'immunothérapie. Donc utiliser des cellules qui vont de manière ciblée éliminer. En fait, c'est utiliser une fonction que le système immunitaire a d'office, mais la renforcer et l'orienter vers les cellules à éliminer. Donc c'est une application évidente et qui fonctionne déjà dans toute une série de circonstances.
Donc l'idée de programmer les globules blancs pour éliminer les mauvaises cellules ou les cellules cancéreuses ou anormales.
Voilà, et donc c'est très connu et la manière la plus fréquente d'envisager cette problématique, donc cette stratégie en fait de thérapie, c'est d'utiliser les CD8. Et moi, ce que je voulais apporter, c'est de dire, voilà, les CD8, c'est très bien, c'est vrai, ça fonctionne, mais les CD4 peuvent apporter une action complémentaire.
Mmh. Et où on est votre thèse, ça date de 2014, donc on est en 2017.
Oui, je l'ai défendue il y a quelques mois, en fait, finalement.
Ah, voilà.
Mais donc, où ça en est
Vous avez travaillé 4 ans.
J'ai travaillé 4 ans dessus, absolument. Ça avance, il y a de plus en plus de thérapies qui utilisent en tout cas des anticorps produits par des cellules immunitaires pour détruire des cellules cibles. Par contre, utiliser vraiment les cellules, je dirais qu'en Europe, c'est encore au stade des balbutiements, parce que ça implique quand même beaucoup d'aspects économiques, éthiques. C'est quand même utiliser des cellules sécuritaires, si je puis dire, parce que on a quand même en Europe assez d'inhibition par rapport au fait d'utiliser du matériel humain en thérapie. Et c'est peut-être moins le cas aux États-Unis ou dans d'autres parties du monde. Mais donc ici, voilà, la technologie existe, on l'étudie de plus en plus. Maintenant, on ne l'utilise pas encore en routine quotidienne, la thérapie cellulaire. Ça, ce n'est pas encore le cas.
Vous disiez tout à l'heure que vous utilisiez donc du sang de donneurs volontaires. Est-ce que les donneurs volontaires savent à quel type de recherche va servir leur sang ?
Oui.
On les informe de ça ?
Ils savent à quel type de recherche et ils savent ce qu'on va faire avec leur sang. Ça veut dire qu'ils signent ce qu'on appelle un formulaire de consentement éclairé. Et sur ce formulaire, ils savent qu'on va prendre leurs cellules, qu'on va avoir éventuellement accès à leur ARN et à leur ADN. Donc c'est quand même quelque chose, c'est pas anodin, donc on peut les tracer, ça voudrait dire qu'on pourrait, si on était mal intentionné ou si on n'appliquait pas des bonnes pratiques éthiques, avoir accès à toute une série d'informations sur eux. Et donc il y a une traçabilité et une manière de traiter ces échantillons tout à fait standardisée et codifiée dans le respect du donneur qui a donné son matériel le plus précieux.
Mmh. Qu'est-ce qui devient ce sang après ?
Alors il est Qu'est-ce qui devient ? Il n'est plus à l'état de sang, puisqu'on en extrait les cellules, puis on extrait des cellules l'ARN ou les protéines. Donc il est décomposé en toutes ses composantes les plus petites, les plus infimes. Mmh. Et puis il est stocké jusqu'à... Donc toutes les différentes parties sont stockées, congelées souvent, pour les étudier par après. Et puis au final, quand il n'y en a plus, il a été utilisé. Donc, une fois que ça a été utilisé, il n'y en a juste plus. On l'a étudié. Et alors, finalement, il devient une partie d'articles publiés, une partie de thèses écrites. Mm-hmm. Voilà.
Voilà. Le matériel sur lequel vous travaillez, Olivier de Paris, s'y intéresse à ce qu'il soit toujours en état une fois qu'on a terminé, c'est les parchemins.
Oui. Hein,
vous allez me dire que c'est une transition qui est un petit peu lourde, mais c'est vrai parce que en réalité, c'est les différents destins dont on parlait tout à l'heure du matériel qui sert à vos recherches respectives. Le sang pour Yasmina Serouk, les parchemins pour vous, Olivier de Paris. C'est vrai que le grand défi, c'est de savoir comment les analyser, les étudier sans les abîmer.
Tout à fait. Mm-hmm. Donc, il faut savoir que le parchemin, en termes de durée de vie, bien, ça se compte en siècles. Hein, puisque bon, les premiers parchemins datent avant l'ère chrétienne. Hein, y a pas de souci avec ça. Le tout, c'est de pouvoir les conserver. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, quelque part, au départ, c'est de la peau, le parchemin. Donc, c'est de la peau qu'on a traité, on a enlevé l'épiderme, on a enlevé l'hypoderme, et finalement, c'est du derme, finalement, le parchemin. Et c'est pour ça qu'en fait, on y trouve principalement cette fameuse protéine de collagène. Mais il faut savoir aussi que dans le processus de fabrication du parchemin aussi, on a étiré, donc on a mis sous tension, sur un cadre, en fait, ce parchemin, on l'a fait sécher sous tension, ce qui veut dire qu'on a étirer en fait ces fibres de collagène. La collagène donc, est une protéine fibreuse, en fait, fibrillaire, si on veut. Mm-hmm. Et donc, on a transformé le matériau. Et c'est ça qui me paraît très intéressant, c'est que finalement, le parchemin, c'est de la peau, mais en même temps, c'est plus de la peau. Et donc, c'est un support qui traverse les siècles, hein, donc, comme je l'ai dit. Et donc, voilà, c'est à ça qu'on s'intéresse, en fait.
Ils sont davantage fragilisés aujourd'hui, les parchemins, qu'ils ne l'étaient au Moyen-Âge. On a l'impression qu'ils ont traversé les siècles et puis qu'aujourd'hui, on doit faire super attention et qu'ils ont comme si, je sais pas, l'environnement était plus agressif.
Non, je ne dirais pas ça. C'est peut-être un peu forcer le trait. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, sans doute, qu'on prend conscience de l'importance de l'héritage culturel. Donc, on s'intéresse scientifiquement aussi, je veux dire, par les sciences dites dures, les sciences dites exactes. On s'intéresse aussi à la conservation. Je ne pense pas que c'est les conditions qui ont fondamentalement changé, je veux dire, après tout ce que ces parchemins ont pu subir à travers les siècles, je ne pense pas que c'est encore un gros problème à ce niveau-là.
Alors encore une question sur ce matériel de base avec vous, Pierre Asmond. Vous, c'est les abeilles, c'est les bourdons, une fois étudiées, donc elles sont recueillies dans la nature, une fois étudiées, qu'est-ce qu'elles deviennent ?
Oh, bon, il y a énormément de choses. Donc les insectes même, quand on les récolte, en gros, pour le plus souvent, ils sont épinglés avec une étiquette et ils se retrouvent dans un musée. Alors, c'est extrêmement précieux parce que on peut comme ça retrouver des insectes qui ont été collectés en 1740. Et ça va nous donner des renseignements, par exemple, sur les pathogènes qui existaient à l'époque, puisqu'on peut retrouver les traces d'ADN et on peut retrouver les pathogènes qui sont inclus dedans. On peut retrouver les grains de pollen, savoir de comment ils s'alimentaient, etc., etc. Et
D'ailleurs, à l'université de Mons, vous vous intéressez à l'histoire aussi des abeilles. Alors, c'est encore une parce que votre laboratoire étudie les fossiles d'abeilles. On remonte à l'époque des grands dinosaures, quand même.
Oui, tout à fait. Et alors, ça va me faire. Oui. Nous avons, par exemple, il y a maintenant quelques années, nous avons décrit une espèce d'abeille qui datait de 55 millions d'années. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est une abeille dans l'ambre, donc qui est prise dans une résine de pin fossilisé. Mm-hmm. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'animal est dans un état de conservation parfait. Et on a vraiment l'impression que c'est arrivé hier. Et on est transporté comme ça dans le temps à cette époque-là. Et c'est une des choses que je voulais mentionner parce que je crois que c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas, c'est à quel point dans le travail scientifique il y a des moments d'émerveillement extraordinaires. Alors, je vais vous en donner un. Et là, je vais parler de dinosaures parce que c'est ça que les gens comprennent peut-être le plus facilement. Un jour, mon collègue Jean-Marc Ball de Polytech, il y a quelques années, me téléphone. « Pierre, j'ai un truc pour toi que je voudrais bien te montrer. » Je dis « Écoute, Jean-Marc, je suis super occupé, je suis entre mon intercours. J'ai un petit fossile de dinosaure à plumes en prêt. Tu veux venir le voir ?» J'arrive tout de suite. Je vais et je vois ce dinosaure à plumes. Et c'est le truc dont j'ai toujours rêvé, depuis toujours. Ça faisait très longtemps que je pensais qu'il y aurait des plumes, et j'avais enfin la preuve. Et j'ai vu ce petit dinosaure Puis j'ai touché avec mes mains, j'ai dit, je peux toucher, oui, vas-y. J'ai touché, j'ai mis mes lèvres dessus, mais c'était un vrai, un authentique. C'est extraordinaire, j'étais... Et c'était quelque chose d'absolument prodigieux. Et alors, pendant plusieurs nuits après, je me retournais dans mon lit en pensant à ce dinosaure à plumes. C'est extraordinaire. Et alors, on est pris comme ça dans une espèce d'émerveillement quand on découvre quelque chose de fantastique. Et maintenant, je retombe sur les choses de ce problème de modification climatique. Donc, lorsque nous avons étudié la distribution des insectes à l'échelle européenne, donc dans cet énorme projet européen dans lequel tout le monde nous envoyait les données.
C'est le projet STEP, c'est ça.
STEP. Hein, et nous, j'étais le nez sur le guidon pendant des mois à collationner ces données, organiser ces données, etc. Puis à un moment, mon paquet de données est prêt, je l'envoie à mon collègue à l'université de Halle en Allemagne, Dr Schweiger, qui fait une analyse et il me renvoie les résultats d'analyse quelques jours plus tard, et puis je commence à lire ça, je mets ça sur une carte géographique, et puis je commence à éplucher ça, et à un moment, je prends conscience du caractère épouvantable de ce qu'il décrit,
du
résultat pour 2050 et 2100, et je me dis, mais si c'est ça, l'Europe deviendra inhabitable, largement inhabitable, et je me souviens, je suis resté plusieurs jours en me retournant, mais là, en étant horrifié, la nuit, en me disant, mais c'est... Et j'essayais de retrouver, et puis je retournais voir, chaque fois, en prenant d'autres espèces, d'autres chiffres, d'autres colonnes, d'autres modélisations, et chaque fois, je retombais sur ce côté inéluctable, épouvantable. Et c'est là que j'ai pris conscience du côté écrasant du processus de modification climatique. Mmh. Maintenant.
Il faut ressouligner que les abeilles, elles sont beaucoup plus fragiles que l'homme et est beaucoup plus sensibles à la chaleur. Et ce qu'on constate en gros aujourd'hui, c'est qu'elles meurent de chaud, elles meurent de faim et elles meurent à cause de problèmes de digestion causés par ce à quoi elles ont accès pour se nourrir à cause du réchauffement.
Oui, ça c'est un truc...
C'est un large résumé, mais...
Oui,
enfin, c'est
et même, les, que... même, même le système immunitaire est perturbé par la chaleur. Mais vous dites que c'est plus fragile que l'homme. C'est vrai, c'est vrai. Individuellement, si vous surchauffez une abeille à une température caniculaire, un bourdon par exemple, ben, sa durée de vie va se réduire à une demi-heure. Donc ça veut dire qu'un jour de canicule, vous allez avoir 9 dixièmes des bourdons qui vont mourir dans la journée. Donc c'est extrêmement fort. Mais si vous réfléchissez bien et si vous collationnez les chiffres, vous vous rendez compte qu'à la canicule de 2003 qui a eu en Europe, tous les comptes faits, cette canicule de 2003 a tué 80 000 personnes en Europe. C'est-à-dire à peu près, c'est-à-dire autant que la bombe atomique de Nagasaki.
À ce sujet, mais peut-être sur cet élément de fragilité, avec vous, Yasmine Asseroug, et avec vous, Lévis de Paris, c'est vrai qu'on se rend compte à la fois de la fragilité de l'existence et des objets, de ce que l'homme a pu produire, mais aussi de cette capacité qu'ont des objets comme les parchemins ou nos cellules, à se défendre et à construire des mécanismes de défense extraordinaires pour se maintenir.
C'est prodigieux, oui, bien sûr. C'est vrai que moi, il faut savoir que dans le domaine dans lequel je travaille en immunologie, cette histoire de dogme et donc de séparation entre les CD8 et les CD4, c'est très important. C'est vraiment quelque chose de fondateur. Et donc, si vous parlez à des immunologistes éminents de par le monde, ils vont toujours vous dire les CD8 ils tuent, les CD4 ils orchestrent la réponse immunitaire. Mmh. Et donc venir avec le fait que les CD4 tuent, c'est toujours encore aujourd'hui un peu tabou et un peu difficile à faire admettre aux gens qui ne s'y intéressent pas. Et donc je dois dire qu'au niveau émerveillement et au niveau variété et diversité de ce que le corps humain est capable de faire, moi chaque fois que en laboratoire, dans mes éprouvettes, dans les expériences que je pouvais faire, je confirmais, je sur-reconfirmais et je voyais ces cellules vraiment tuées. J'ai plusieurs fois, avec mon superviseur, je lui ai à chaque fois dit « Regarde, c'est vrai, on a raison, elle tue. » Oui, c'est prodigieux de se rendre compte de toutes les fonctions que peuvent avoir notre système immunitaire et donc notre corps.
Olivier de Paris, en ce qui concerne justement précisément les parchemins, vous disiez tout à l'heure qu'on utilisait différentes sortes de peaux, enfin de peaux plutôt de différentes espèces animales, selon que l'on utilise par exemple de la peau de mouton ou de la très fine peau de veau, ou qu'on ait utilisé de la très... le parchemin ne sera pas pareil, mais est-ce qu'il va survivre aussi longtemps ?
Oui, je pense qu'en en termes de durabilité, c'est,
ça n'a pas d'impact. C'est pas ça qui a de l'impact.
Peut-être revenir un peu sur aussi l'émerveillement qu'on peut avoir à côté, effectivement, de choses redoutables et qui nous font tous peur, évidemment, pour l'avenir de l'humanité. C'est de se dire que ce support a tenu des siècles, mais aussi bien avoir conscience que, par exemple, concrètement, quand on utilise la peau, par exemple, au VIe siècle, soyons concrets, hein, prenons par exemple un monastère à l'ère mérovingienne, eh bien, le scribe qui écrit sur cette peau qui a été traitée de manière un peu rudimentaire, avec évidemment des recettes dont on ignore tout encore maintenant, il n'a aucune conscience que ce qu'il est en train d'écrire va traverser 15 siècles. Mmh. Et donc, je trouve ça, quelque part, un cadeau absolument merveilleux, remarquable, de... Et on n'a pas écrit des bêtises là-dessus. On a quand même, je vous rappelle, écrit toute la philosophie de l'Antiquité, les textes des grandes religions, etc. Et donc, on a pu... tous ces textes-là ont pu... et des traités de médecine aussi, hein, bien sûr. Et tout ça a pu traverser les siècles sans qu'on ait pensé un seul instant, finalement, à la durabilité. Et on peut mettre ça en contraste, et c'est pour ça que des philosophes peuvent aussi nous aider à réfléchir, c'est qu'à une époque où on est absolument conscient de la durabilité, de la fragilité même de notre écosystème, etc., eh bien, on enregistre toutes nos données sur un support dont on n'est absolument pas certain que même dans 50 ans, on a tous fait l'expérience avec nos vieux téléphones qui ne fonctionnent plus, etc., on n'est absolument pas certain que toute cette science qu'on développe, toute cette pensée, en fait, qu'on met sous support persistera dans 100 ans. Et ça, je pense, c'est quand même, ça mérite réflexion.
D'où l'importance aussi de ce travail que vous faites sur la conservation, enfin la réflexion ou l'étude en tout cas de la conservation et les enjeux de cette conservation des parchemins, des enjeux, on l'a dit, qui ne sont pas que historiques ou philosophiques, même s'ils sont majeurs, surtout pour les parchemins précieux, mais aussi ils sont potentiellement essentiels pour les domaines de la pharmacologie, la biologie, de la médecine aussi quand il s'agit d'utilisation de peaux artificielles, comme vous l'avez signalé tout à l'heure. Nous allons continuer à en parler. Ce sera après avoir écouté Vianney.
Les éclaireurs sur la première.
Le samedi, 15h-16h.
Avec nous aujourd'hui, il y a Yasmina Serouk, docteur en médecine, en formation pour devenir hématologue. Ce sera le cas d'ici 2 ans à peu près.
Oui.
Vous faites ça à la KUL, hein, je pense, maintenant. Votre thèse, c'était à l'ULB et la formation ici.
La fin de ma formation.
La fin de la formation. Donc, on n'est pas obligé de tout le temps suivre son université de départ. On peut aussi lui faire des infidélités.
Oui, puis c'est pas si loin.
C'est pas loin du tout. Également avec nous, bien sûr, Pierre Rasmon, docteur en sciences agronomiques, professeur à l'Université de Mons, fondateur du laboratoire de zoologie. Et nous avons parlé des abeilles sauvages, on va encore le faire, bien entendu. Et aussi Olivier de Paris, professeur au département de physique à l'Université de Namur. Et on le disait tout à l'heure, vous menez une recherche avec des collègues dans la biologie, la chimie, la philosophie également et l'histoire. Bien sûr, en fait, sur les parchemins, et vous étudiez des parchemins qui sont issus de la bibliothèque Moretus Plantin à Namur uniquement, ou bien vous négociez des prêts aussi à l'extérieur?
Voilà, en fait, juste deux mots, disons, sur deux grands axes de recherche qu'on a. D'une part, on travaille sur des reliures en parchemin. Et alors, il faut savoir qu'à partir du 9e siècle, on commence à utiliser le parchemin aussi pour relier des ouvrages, alors que l'utilisation du parchemin commence en Europe au IVe siècle. Et cette utilisation perdure aussi parce que quand le papier arrive, vers le XVe, un peu bien avant évidemment, mais voilà, on continue à utiliser ces reliures en parchemin. Et toute la problématique de la restauration, elle est là. En fait, l'atelier de restauration de la bibliothèque Moretus Plantin nous a un jour interpellés en 2013, je me souviens, en disant mais est-ce que des techniques non-invasives, c'est-à-dire qui ne détruisent pas le parchemin, sont capables de diagnostiquer l'état d'un parchemin et comment les techniques et les matériaux, les nouveaux matériaux qu'on utilise pour la restauration vont l'affecter. Et donc ça, on a développé une technique de microscopie en lumière polarisée. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Donc ça, c'est l'aspect vraiment restauration. Comment les techniques d'observation de microscopie non-invasive peuvent aider à, quelque part, dire qu'est-ce qu'il adviendra finalement d'une reliure. Alors, à côté de ça, on a aussi des recherches très importante avec les historiens qui se posent évidemment des questions historiques sur des parchemins historiques. Et récemment, on a obtenu un financement de la Fondation Roi Baudouin, du fonds Jean-Jacques Commer, pour étudier les parchemins de l'abbaye d'Orval. Hein, faut savoir que l'abbaye d'Orval a quand même 9 siècles d'existence, avec quelques petits trous dans l'histoire, vous devinez bien à quelle période. Et Les parchemins de cette bibliothèque ont été étudiés d'un point de vue des sciences historiques, donc par la codicologie, par la paléographie, etc. C'est un fonds bien connu des historiens. Il y a un catalogue raisonné qui va être édité bientôt. Et ce qu'on aimerait bien, c'est apporter notre petite pierre à l'édifice du côté des sciences exactes en identifiant l'origine animale de la peau du parchemin. Alors pourquoi c'est important ? Alors c'est très caricatural, mais ça aide. On peut, par les techniques de protéomique dont on parlait tout à l'heure, identifier, un peu comme l'analogue de l'ADN, si vous voulez, mais on travaille sur la protéine, identifier l'espèce animale. Ce n'est pas techniquement facile, parce que quand vous pensez aux peaux, les peaux qui sont utilisées sont des peaux de mouton, de veau et de chèvre. Mm-hmm. Alors si vous pensez, la chèvre, le mouton, ce n'est pas très loin, hein, au niveau, je veux dire, ADN, idem au niveau collagène, donc il faut faire des mesures très précises pour identifier ça. Alors, qu'est-ce que les historiens peuvent faire avec ça ? Eh bien, il se trouve que si on arrive à dire aux historiens, bien voilà, telle série de parchemins, c'est plutôt du mouton, d'autres c'est plutôt du veau, d'autres c'est de la chèvre, ça a des conséquences, parce qu'au niveau géographie à l'époque, production du parchemin, la chèvre est utilisée en Italie, je force un peu le trait, hein, le mouton en Angleterre, bien sûr, on comprend pourquoi, avec toute l'économie qui à l'époque il y a autour de ça, et le veau, en Europe. Mmh. Donc quelque part, on peut commencer à émettre des hypothèses qui vont confirmer d'autre part les hypothèses faites par les historiens sur base purement, codicologique, par exemple, et on peut commencer, en fait, à pouvoir voir la provenance des parchemins.
C'est ce sur quoi, dans l'état actuel des choses, on a relativement peu d'informations, hein, sur la fabrication, sur le commerce, les méthodes de conservation, les techniques de réutilisation possibles, les niveaux de qualité aussi. On a relativement peu d'informations là-dessus.
Et ça, je pense qu'il faut le dire au grand public, parce qu'on est tous imprégnés par des films sur le roi Arthur, le Moyen-Âge, etc. On aime bien tout ça, et on pense, on voit des parchemins, on pense à ce fameux célèbre film Le Nom de la Rose qui nous a tous marqués à une certaine époque, et on pense que tout ça est connu. C'est faux, en fait. Toutes ces recettes se transmettaient oralement, les quelques écrits qu'on a ne sont pas clairs, et donc on connaît très peu de choses là-dessus. Mmh. Et donc, nous, en apportant une information scientifique, objective et définitive sur l'origine animale du parchemin, on nourrit les historiens avec leurs hypothèses concernant le commerce, par exemple, du parchemin à travers l'Europe, son lieu de provenance, etc. Et ça peut avoir des conséquences donc très très importantes au niveau de la recherche historique cette fois-ci.
Mmh. Une étude dont le grand défi, on l'a dit tout à l'heure, c'est d'utiliser une technique non destructive.
Absolument.
Évidemment, parce que sinon, on a un problème, quoi.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Professeur Hasbon, vous avez ajouté quelque chose.
Ça m'amuse beaucoup d'entendre mon collègue parler de l'étude et de l'identification des parchemins, parce qu'en fait, en gros, on a produit toute une série d'études récemment dans lesquelles on a pu perfectionner les techniques d'identification des ADN ou d'identification des phéromones grâce au spectromètre de masse ou grâce à la séquençage d'ADN.
Là, vous parlez des bourdons et des abeilles sauvages.
Je parle des bourdons et des abeilles sauvages.
Oui, oui.
Et on peut non seulement identifier toutes les différentes espèces d'abeilles, il y en a 2000 en Europe, ou de bourdons, mais même à l'intérieur d'une espèce, on peut distinguer les différentes souches et la provenance géographique très précise. Alors, grâce à ça, on a pu aussi retrouver la parenté entre toutes les populations des espèces, et puis on a pu confronter tous les liens de parenté de ces espèces avec les modèles climatiques depuis les dernières glaciations. C'est-à-dire, on s'est dit, durant les glaciations, les espèces, étant donné que l'Europe était entièrement couverte de toundra ou presque, sauf les péninsules, on s'est dit donc, celles-là sont venues de là, puis elles sont venues de là. On a pu reconstituer comme ça les 10 000 dernières années, en collationnant le modèle climatique et les modèles d'évolution d'ADN. Et puis, une fois qu'on a eu ce modèle-là, on s'est dit, avec ça, on peut en fait valider le modèle d'évolution climatique du passé et utiliser cette manière de travailler pour faire le futur. C'est-à-dire qu'en fait, notre modélisation du futur, elle est basée sur la validation du passé. Ce qui fait que ça le rend beaucoup. Ce n'est pas une simple élucubration qu'on fait sur le futur, c'est une élucubration, c'est-à-dire c'est le résultat d'une confrontation avec les modèles passés.
Mais justement, une des analyses a permis de dresser une liste rouge, hein, si on peut dire, des abeilles d'Europe. Mais la solution, c'est quoi ? Est-ce qu'on peut inverser cette tendance ou bien est-ce qu'on doit faire le deuil de toute une série d'espèces ? Parce qu'aujourd'hui, les espèces dominantes, ce sont des espèces qu'on trouvait dans le sud de l'Europe il y a 20 ou 30 ans. Ce sont les espèces dominantes chez nous aujourd'hui.
En ce qui concerne les guêpes, c'est vrai. En ce qui concerne les guêpes communes, celles qu'on trouve dans les jardins, celles que j'ai dans mon jardin à Mons, ce sont des espèces qui étaient dans le midi de la France auparavant. Et les espèces qu'on trouvait banalement en Belgique, je ne les vois plus si souvent que ça dans mon jardin de Mons, effectivement. C'est vous savez, n'imaginez pas à quel point c'est quelque chose qui me met dans la perplexité quand les gens me disent « Bon, on va vers une situation catastrophique, est-ce qu'il y a des solutions ?» Et ma très grande tristesse... ma très grande tristesse, c'est de se dire que j'ai beaucoup de crainte que pour une grosse partie des choses, effectivement, il faudra faire son deuil. Et on peut freiner certaines évolutions, mais on est déjà très, 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 très tard dans la maîtrise des problèmes climatiques. Il faudra commencer à réfléchir non plus à inverser le processus, parce que ça, c'est impossible. Mais comment va-t-on faire face au cataclysme ?
Alors, on parlait tout à l'heure de l'émerveillement que vous pouvez éprouver au cours de vos recherches respectives. L'émerveillement et puis aussi, à un moment donné, la crainte, j'imagine, Yasmina Serouk.
Oui, la crainte, c'est-à-dire que dans le domaine qui m'occupe, tuer des cellules, c'est bien. Les tuer parce qu'elles sont anormales, c'est le but. Maintenant, on risque toujours, et c'est la contrepartie de ces traitements-là, on risque toujours de tuer les cellules qu'il ne faut pas. Donc, c'est vraiment le problème suivant, une fois qu'on a vu qu'elles étaient capables de tuer, c'est d'être sûr qu'on est sélectif. Et je dirais que ça, c'est notre
de bien
crainte.
Cibler l'attaque.
Oui, c'est ça. C'est faire une recherche formidable, trouver quelque chose qui a l'air super et qui, au final, en pratique, quand on l'administre à des patients, tue ce qu'il ne faut pas et donc cause plus de problèmes qu'il n'en résout. Je dirais que ça, c'est la crainte principale dans mon domaine.
Peut-être une dernière question à vous, Olivier de Paris. Vous privilégiez, on l'a dit, toujours, pas quasi toujours, des recherches qui réunissent sur un même thème plusieurs disciplines. Est-ce que la recherche que vous faites actuellement sur les parchemins vous permet de continuer des recherches comme celles que vous menez sur les couleurs chez les insectes, par exemple? Il y a un sujet aussi qui intéresserait le professeur Raspon. Ou bien est-ce que une recherche fait qu'on est face à un choix cornélien, on doit laisser tomber.
Non, pas du tout, bien heureusement. D'ailleurs, par exemple, si je prends l'exemple de la microscopie optique évoluée, par exemple en lumière polarisée ou des choses comme ça, c'est des choses que je peux appliquer, bien sûr, dans l'étude, par exemple, des couleurs dites structurales chez les insectes, etc. La fluorescence aussi, qu'on utilise fort. Certains animaux sont évidemment fluorescents et on peut étudier ces phénomènes-là. Et on se rend compte aussi, ça, je l'ai découvert tout un que le collagène est lui-même autofluorescent. Donc la fluorescence est aussi un moyen de diagnostiquer finalement l'état d'un parchemin. Donc voilà, pour moi, tout est dans tout.
Je vous remercie infiniment tous les trois d'avoir participé à notre émission d'aujourd'hui. Merci à vous, Yasmina Serouk, Olivier de Paris et Pierre Raspon.